Vous l'avez probablement vu en fin de semaine. Est-ce que c'est réalisable, une vente de véhicules neufs interdite au Québec dès 2035, des véhicules à essence? Est-ce qu'on est rendu là? On va aller poser la question avec un spécialiste automobile qui est en bout de ligne, Samuel Tremblay-Michaud. Salut Sam!
Salut Pierre!
Comment ça va?
Ça va très très bien.
Hey, écoute, j'ai l'impression que des véhicules électriques, on s'en est parlé souvent, on s'en est parlé ici sur les ondes d'Alma également il y a à peine quelques semaines avec Tesla. Est-ce que tu penses réellement que c'est un objectif réalisable pour le Québec en 2035? On est-tu rendu là?
À 100%. Moi, je suis de ceux qui croient qu'on va absolument se rendre là. Premièrement, il faut comprendre que les véhicules électriques ont fait un cheminement assez merveilleux depuis déjà une dizaine d'années. On est passé de... Les voitures électriques, c'est un peu comme un fantasme. On espère que ça va arriver. On trouve que c'est une belle technologie, mais on se dit, bah, c'est vraiment... pas tout très, très sérieux, puis on pense pas vraiment qu'on va se rendre là. Eh bien, tu sais, aujourd'hui, après 10 ans, on peut se dire on est rendu là. Il y a plusieurs produits électriques sur le marché, dont le Hyundai Kona, la Chevrolet Bolt, la Nissan Leaf, bref, on a plusieurs produits électriques qui existent sur le marché présentement, et il y a quelques années, c'était même pas envisageable de penser ça. Donc, pour répondre à la question, je suis certain que si on se laisse encore un 15 ans de travail dans le monde des voitures électriques, d'ici 15 ans, c'est sûr que les résultats risquent d'être encore meilleurs. On risque d'avoir encore plus de voitures à disposition et des voitures qui vont être encore meilleures qu'aujourd'hui. Donc, moi, je suis très réaliste. Il faut savoir aussi que nous, on s'est mis 2035, mais il existe des pays qui visent 2025, dont la Norvège. Là, 2025, on parle d'ici 5 ans. Là. C'est demain matin. Là.
Parce que, tu sais, les constructeurs, tu sais, souvent, moi, j'ai l'impression qu'ils sont en Californie, dans des météos qui sont idéales pour des véhicules électriques. Est-ce que dans le développement de ces voitures-là, on prend quand même en considération le fait qu'il y a des régions dans le monde qui vont être un peu plus au nord, avec de la neige, avec des températures un peu plus froides? Est-ce qu'on met ça en ligne de compte dans le développement de ces véhicules-là?
Assurément, parce que veut pas, il y a un marché. Nous, surtout en Amérique du Nord, encore plus quand on est dans la région, on a des grandes distances à parcourir pour se rendre à notre bureau ou se rendre à l'épicerie ou quoi que ce soit. Donc, dans cette mesure-là, les constructeurs savent que en Amérique du Nord ou dans les pays plus nordiques, on a besoin de voitures. Donc, on veut acheter des voitures. Et qui va vouloir acheter une voiture qui n'offre pas une bonne autonomie ou qui offre des problèmes l'hiver? Il n'y a personne qui va aimer ça. Donc, les entreprises travaillent conjointement avec des pays pour produire des voitures équipées de systèmes, soit pour chauffer la batterie ou des batteries qui sont capables de garder une meilleure autonomie, même en temps froid. Donc, c'est beaucoup de défis, c'est beaucoup de choses. Mais tu sais, on peut juste penser avec Volvo et la gamme Polestar qui vont sortir. Des voitures 100% électriques de performance. Et Volvo est situé en Norvège. Donc, le climat ressemble plus à notre climat. Donc, on peut se dire qu'il y a des entreprises comme Volvo qui développent des produits pour réussir à fonctionner comme ça, même dans les temps froids.
Mais là, la grande question, c'est la production. Parce que là, éventuellement, si en 2035, ça prend des véhicules électriques seulement, il va falloir les produire. Puis en ce moment, j'ai l'impression qu'on a beaucoup de problèmes du côté de la production. Et la production m'amène à poser la question concernant le prix. Est-ce que les prix vont baisser? Donc, il y a deux volets. Comment va la production? Et deuxièmement, est-ce qu'éventuellement, ça pourrait nous faire baisser les fameux prix de ces véhicules-là?
Le problème, c'est la production. Tu t'as mis le doigt sur le bobo. La production est lente, il n'y a pas beaucoup de produits disponibles dans les concessions et les constructeurs ont beaucoup de difficultés à produire des véhicules électriques. Cependant, imaginez qu'on transforme les usines de fabrication de voitures à essence pour des voitures 100% électriques. Imaginez qu'on travaille à développer des robots pour que ça soit plus vite, que ça soit mieux fait. Mais d'ici 15 ans, selon moi, la production va avoir réussi à prendre un galon intéressant et on va devenir avec plus de voitures électriques dans les concessionnaires probablement que des voitures à essence. Ça, je peux y croire. L'enjeu maintenant, c'est sur le volet environnement. Les batteries ont besoin de lithium et de cobalt. Ces deux minéraux-là sont très polluants à extraire, et là, c'est là que les voitures électriques ont une empreinte écologique négative. C'est surtout au départ. Donc, quand ils se font construire, c'est là qu'ils sont les plus polluants. Et quand on calcule 85 000 km plus tard, là, le véhicule atteint le même niveau de pollution qu'un véhicule à essence, et ensuite, il devient plus écologique que le véhicule à essence. Donc, le problème réside toujours dans la construction de cette fameuse batterie-là. Moi, je crois qu'on va se rendre à avoir des technologies meilleures d'ici 2035. Probablement qu'on va être capable d'avoir d'autres sortes de minéraux pour créer les batteries. Mais pour l'instant, l'enjeu est sur la production, l'enjeu est sur la fabrication. Selon moi, ça va se régler, mais je voudrais que, tu sais, est-ce que c'est réaliste de dire que toutes les voitures électriques vont être sur... électriques vont être vendus en 2035? Oui, moi, je pense que c'est réaliste. Il faut savoir aussi que les véhicules à essence dans l'usager et dans le commercial vont pouvoir continuer à être vendus sans problème.
Est-ce qu'en ce moment, la COVID pourrait nous amener un ralentissement? C'est-à-dire que j'imagine que les concessionnaires mettent énormément d'énergie, énormément d'argent dans le développement de ces technologies-là, question de les améliorer d'année en année, mais ça pourrait-tu ralentir, nuire à un objectif comme celui-là, le ralentissement de la COVID?
Assurément, et c'est ce qui coûte le plus cher aux entreprises présentement, la recherche et le développement. Moi, je pense que qu'est-ce qu'on risque de voir, c'est un changement de carte. Depuis plusieurs années, on est habitué aux mêmes constructeurs qui sont numéro un dans certains créneaux, même les mêmes constructeurs qui font le plus de ventes annuelles, les mêmes constructeurs qui vivent les mêmes défis ou quoi que ce soit. Moi, je pense que là, l'industrie automobile va brasser ses cartes et on risque peut-être de voir des entreprises plus petites devenir des grands joueurs. Moi, je pense à Rivian, qui est une entreprise que Ford a investi des centaines de millions de dollars dans une start-up pour développer des pick-up électriques, des VUS électriques. Donc, cette petite entreprise-là, si elle réussit à avoir un modèle d'affaires intéressant, de distribuer comme il faut les véhicules, comme eux, ils se sont spécialisés au départ dans l'électricité, ils sont capables de voir un peu les enjeux dans le futur. Fait que moi, je me dis, probablement qu'on risque de voir des nouvelles compagnies sur le marché et ça risque de chambouler vos habitudes d'achat. Donc ça, c'est sûr que ça va être différent, mais la COVID ralentit les choses. Donc, est-ce que les petites startups auront les moyens encore de grandir versus les grandes entreprises comme Ford, GM ou Honda, peu importe, qui ont des reins beaucoup plus solides? C'est là qu'on risque de voir un peu les cartes brassées, mais ça va être intéressant parce que des entreprises comme Ford, comme GM, que je nomme depuis tantôt, qui ont investi des millions dans le développement, vont être prêts, vont sortir des véhicules qui vont être efficaces. Maintenant, il reste la question du prix. Donc, il va falloir s'assurer d'avoir des voitures beaucoup plus accessibles pour les portefeuilles de tout le monde parce que présentement, c'est vraiment pour une classe de personnes à part. Et si on veut se rendre dans l'objectif d'avoir un prix intéressant, bien, les constructeurs doivent continuer à développer, doivent continuer à faire des recherches. Mais ça nous laisse 15 ans encore. Donc, depuis 10 ans, on a fait beaucoup de progrès. Et d'ici 15 ans, on risque d'en faire encore énormément. C'est positif, selon moi.
Puis en terminant, tu sais, côté, parce qu'on parle du véhicule, mais il faut aussi penser à la recharge. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ont comme la crainte de se dire « Hey, ça va prendre un méchant setup à la maison, là. Va falloir refaire la boîte électrique, puis tout ça. » Est-ce que ça s'améliore, cette technologie-là de recharge des véhicules?
Mais moi, voyez-vous, moi, je vois ça comme étant un changement, oui. Mais moi, je vois pas ça nécessairement comme tout le monde aura une borne électrique de connecter à leur maison, à leur logement ou à quoi que ce soit. GM nous a présenté le Hummer électrique il y a quelques semaines. Et moi, dans la présentation, bien sûr, j'ai trouvé le véhicule extrêmement intéressant, mais la borne de recharge qui va être compatible avec le produit m'a encore plus intéressé. On parle d'une borne qui, en 10 minutes, redonnerait environ 200 km d'autonomie au véhicule. Donc, tu sais, pensez-y, 10 minutes, c'est pas très long, on va chez un café au dépanneur, on achète un petit fromage en crotte, on embarque dans l'auto, et le véhicule a déjà remonté 200 km d'autonomie supplémentaire.
On sera à Québec, donc, par exemple, tu sais.
Ben, possible. Exactement. Donc ça, moi, je vois ça positif. Vous me direz, ouais, mais là, je vais mettre de l'essence, je vais avoir 600 km. Oui, absolument, là, mais on va se rendre, là, selon moi, tu sais. Si l'entreprise est déjà capable de nous dire ça aujourd'hui, imaginez dans quelques temps à quel point les bornes risquent d'être encore plus efficaces. Moi, j'ai le sentiment qu'on n'aura pas tous des bornes à la maison. Je pense qu'on va avoir plutôt des alternatives de rechargement ou juste s'assurer que les batteries n'aient pas de complications ou juste qu'on va connecter la voiture pour s'assurer que, bon, elle se recharge un peu, mais selon moi, on va avoir des stations de service, si vous voulez, mais des stations électriques où est-ce qu'on va arrêter puis qu'on va les recharger très rapidement nos voitures. Selon moi, le modèle d'affaires va aller plus vers là. Peut-être que je me trompe, mais selon l'analyse que j'en fais, ça va être plus logique que d'installer chez tout le monde une borne. Là, on risque d'avoir beaucoup plus de complications.
Samuel Tremblay-Michaud, spécialiste dans le domaine de l'automobile, un gros merci.
Merci beaucoup, Pierre, puis passe une très belle soirée.